Don't tell me.
Le show du matin. Weekend.
Ah, let's go, I'm so let's go, let's go.
Avec Capo.
Yes.
Radio X.
Ah, c'est un feu roulant, hein? C'est un feu roulant, ce show du matin week-end de cette édition du 4 juillet 2026. À quelques jours de mes vacances, oui, le dernier samedi ce matin. Puis je voulais pas partir sans jaser, parce qu'elle reviendra l'automne, évidemment. Mais je voulais pas partir cette saison sans jaser avec mon amie Stéphanie Jolicoeur. Bon matin, Mélanie! Mélanie, bon, Stéphanie.
Mélanie,
elle est là aussi.
On est toutes là.
Je voulais te surprendre et te débaptiser. Stéphanie, je m'excuse.
Hey, comment ça va?
Ça va super bien. Merci d'être là. Stéphanie, ouais. Quand on prend un cours en physique, on se fait nommer une formule, la fameuse formule, oui. E égale MC2. Même hier, j'ai vu une demoiselle dans un événement. Elle l'avait tatouée sur le bras. Mais explique-moi donc. E égale MC2. Es-tu capable de me vulgariser ça un samedi matin comme ça quand t'as les yeux collés, là?
Oui, parce que, Carl, c'est juste une formule de conversion. Exactement comme on a nos taux de conversion d'argent, là, on peut aller sur Google et dire, oh, aujourd'hui, ça me prend combien de dollars canadiens pour faire 100 UN? T'sais, n'importe quoi.
Ouais.
Puis là, on a un taux, t'sais, un pourcentage. E égale MC2, c'est vraiment une formule pour convertir l'énergie en masse. Puis c'est Einstein qui nous a sorti ça en 1905, toi, en plein début du 20e siècle, on part dur. Puis en fait, c'est plus simple qu'on pense, parce que la conversion d'énergie, Carl, tu connais ça. En plus, t'es un garagiste, t'es oui. Quelqu'un qui comprend plus que moi comment une voiture fonctionne.
Ben oui.
Tu le sais, en fait, que tout ce qu'on fait sur la Terre, tu sais, les processus biologiques, quand on digère de la nourriture, puis qu'on tire de l'énergie chimique avec ça dans notre corps, puis qu'après ça, on bouge nos bras, puis qu'on fait des affaires, une voiture, c'est quoi? C'est on chauffe quelque chose, puis là, ça fait prendre de l'expansion en l'air, puis là, il y a comme un piston à quelque part dans la voiture qui baisse puis qui monte, là, c'est
ouais.
Ça que je comprends.
Ouais.
Puis, tu sais, ça fait bouger des essieux, ça fait rouler des... On convertit de l'énergie thermique en énergie mécanique. Donc, tout ce qu'on fait sur Terre et tout ce qui se passe dans l'espace même, c'est juste tout le temps de l'énergie qui change de forme. Une batterie, c'est quelque chose qu'on a inventé pour emmagasiner de l'énergie chimique. Puis quand on branche la batterie dans un circuit électrique fermé, ben l'énergie chimique se transforme en énergie électrique. Puis avec ça, ben on peut faire allumer une lampe, faire bouger quelque chose. Donc, tout ce qu'on fait, c'est comme convertir de l'énergie dans un gigantesque bureau de change qui est comme l'univers. Puis l'affaire, c'est que ça, on le savait depuis longtemps, Carl. Parce que, tu sais, à un moment donné, on a découvert justement l'électricité au 19e siècle. On était comme, c'est une autre façon de convertir l'énergie, c'est donc bien cool. Puis, depuis, évidemment, toujours, on savait comment convertir de l'énergie en énergie mécanique, faire bouger des chars, lui faire bouger des outils, tout ça. Puis, à un moment donné, ben là, on a découvert que aussi, on pouvait transformer l'énergie en énergie gravitationnelle, en énergie potentielle, tout ça. Mais en 1905, Einstein, lui, était en train de travailler sur ses affaires. Puis, il s'est rendu compte que c'est comme s'il y avait une monnaie dans l'univers qu'on avait oublié d'utiliser. Puis cette monnaie-là, c'est la masse. Tu sais, c'est quoi ta masse, Carl?
Oui, je suis pesant, moi, là. Je pèse 220 livres.
Mais, en passant, la masse, c'est pas la même chose que le poids.
Ah!
Ça, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est pas grave sur Terre si on confond les deux. Mais ta masse, c'est la quantité d'atomes qui te constitue. Puis ta masse, normalement, elle reste à peu près la même, peu importe où tu es dans l'univers. Mais ton poids, c'est la force avec laquelle la Terre te tire en ce moment à cause de sa gravité. Puis donc, le poids, il change selon, genre, sur quelle planète tu serais. Parce que, ou quel satellite, parce que, mettons, sur la Lune, la gravité est 6 fois plus faible. Donc, ta masse serait pareille, à moins que tu aies perdu un bras là, dans le voyage, là, mettons que tu n'as pas perdu rien, là, ta masse serait pareille, mais ton poids serait 6 fois plus petit.
Ah ben, mon Dieu, je vais aller laisser ça à la Lune, quoi.
Mais non, teste-le pas, reste avec nous. Mais E égale MC2, en fait, ça t'apprend de la masse. Fait qu'Einstein s'est dit, hey, la masse elle-même, là, les atomes, ils peuvent être convertis en énergie. Sauf que là, ça se passe pas n'importe quand. Là. Tu sais, tu vas pas spontanément, Carl, te transformer en énergie pure, parce que ça serait vraiment problématique. Surtout que E égale MC2, ce que ça nous dit, c'est que ça prend pas beaucoup de masse pour faire beaucoup d'énergie. Parce que M, il est multiplié par C au carré, puis C, c'est un vraiment gros chiffre, c'est la vitesse de la lumière. C'est 300 000 km par seconde.
Oh boy, il était un peu Einstein, si... là, je te perds déjà. Là.
Ben, tu sais, en fait, ce que ça dit, l'équation, c'est qu'un petit grain de matière peut libérer énormément d'énergie. Fait que si nous, on se transformait n'importe quand en énergie pure, ça serait vraiment problématique. Le seul endroit où ça se passe, là, ce phénomène-là, vraiment, qu'on peut le voir, nous, c'est dans le noyau de l'atome.
Okay.
Parce que dans le noyau des atomes, il y a comme un tout petit peu de masse, évidemment. Puis, tu sais, quand Einstein a sorti cette formule-là en 1905, là, tous les physiciens et les physiciennes se sont dit, attends un peu, là, ça veut dire que si tu prends la petite masse d'un noyau d'atomes puis que tu réussis à le casser en deux, ça se peut qu'on puisse prendre un petit surplus de cette masse-là puis le transformer en énergie. Puis ça a pris du temps avant de le prouver. Il a fallu attendre dans les années 30. Puis dans les années 30, on a commencé à être capable de prouver qu'en effet, quand tu prenais genre un noyau comme un gros noyau d'atomes, genre un gros noyau d'uranium, puis que tu réussissais à le casser en deux, les deux morceaux que ça te donne, il leur manque, tu sais, les deux morceaux séparés, ils sont un petit peu moins massifs que le gros noyau d'uranium à l'origine. Il y a une petite partie de la masse qui s'en va puis qui est transformée en énergie pure.
OK.
Puis les gens se sont dit, ah ben tabarnouche, c'est parce que si on fait ça avec beaucoup, beaucoup de noyaux d'uranium, on peut faire beaucoup, beaucoup d'énergie.
Puis faire une grosse bombe.
Puis faire une bombe.
Ouais.
Fait que c'est ça E égale MC2. E égale MC2, il est présent aussi dans le Soleil parce que le Soleil, il fait le contraire. Lui, il prend des tout petits noyaux d'hydrogène puis il les fusionne ensemble pour faire des noyaux de plus en plus lourds. Puis à chaque fusion de noyaux atomiques, il y a toujours une petite partie de la masse qui s'en va puis qui est convertie en énergie selon le ratio E égale MC2. Fait que E égale MC2, là, tu sais, la conversion, le fait que la matière, la masse, pardon, c'est comme juste une autre façon que l'énergie dans... C'est un autre déguisement pour l'énergie. L'énergie peut se déguiser en électricité, en énergie gravitationnelle, en énergie élastique, tout ça. Elle peut aussi se déguiser en masse. C'est vraiment important dans nos vies parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, Carl, mais le soleil il est important.
Ben absolument.
Pour la vie sur Terre.
Ben oui.
Fait que c'est vraiment grâce à E égale MC2 qu'on est sur Terre. T'sais.
De commun des mortels, celui qui n'est pas physicien, qui est assis sur les bancs d'école en physique de secondaire 4, pour lui, ça change quoi, ça, dans sa vie, ça, à lui, ça, le E égale MC2?
Ça change. Tu sais, c'est pas juste. Tu sais, on parle beaucoup de bombes, là. Mais c'est une façon d'utiliser E égale MC2. Une autre façon, c'est de faire des réacteurs nucléaires. Puis là, tu sais, là, je ne suis pas experte en énergie propre, tout ça, mais on sait que l'énergie nucléaire, c'est une des formes, une des façons dont on peut produire de l'énergie pour, évidemment, alimenter les machines à travers le monde, là, que pour le pire et pour le meilleur. Mais, tu sais, E égale MC2, en fait, il est partout où il y a de la radioactivité. Puis, on en utilise de façon sécuritaire dans les hôpitaux, en la médecine nucléaire.
Oui.
On peut injecter dans le corps certains éléments radioactifs en dose très sécuritaire. Puis le fait que les éléments soient radioactifs, ben, on peut les tracer dans leur parcours à travers le corps. Puis ça peut nous aider à aller repérer des cellules cancéreuses, des choses problématiques dans le corps. Donc, en général, là où il y a du nucléaire, de la radioactivité, il y a toujours égal MC2.
Okay.
En médecine. En armement, malheureusement, mais aussi en défense, en production d'électricité. C'est partout autour de nous.
Donc, Oppenheimer, lui, il a jasé, là, un moment donné, avec Einstein.
Oui, Einstein était déjà comme à la fin de sa carrière, là, à ce moment-là. Puis Einstein n'était pas... C'est comme un peu lui qui a donné le coup d'envoi à la bombe atomique, mais il n'était pas fan non plus de juste atomiser des villes entières. Là. Fait que, ils se sont entretenus, Oppenheimer et Einstein, mais Einstein était de l'équipe de « on ne devrait pas faire de bombe atomique ».
Oui, exactement. Et d'où est sortie la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée », c'est ça?
Cette phrase, hey, tu m'en demandes une bonne. Elle est plus vieille qu'Einstein, mais je pourrais pas te dire de quand. Je pense que ça date de l'époque où on a comme inventé les premiers moteurs à piston. Fait que c'est ton domaine, Carl. C'est toi qui pourrais répondre à cette question.
C'est extraordinaire. Tu sais, la physique, vouloir la vulgariser comme tu le fais, ça prend quelqu'un de ferré. Là. On s'entend, Stéphanie, tu es une bonne personne pour nous vulgariser ça. Puis si tu te poses pas la question jamais dans ta vie, ça se peut que tu sois capable de fonctionner quand même. Mais moi, je trouve ça intéressant, pareil, de connaître ça.
Merci. Moi, ça me fait plaisir parce que, tu sais, la physique, ça a l'air... Puis c'est vrai que les maths sont compliquées. Là. Mettons que tu plonges dans la relativité d'Einstein, tout ça, les maths sont compliquées. Mais l'affaire, c'est que nous, on est chanceux parce qu'on n'est pas physicien de métier. On n'a pas besoin de faire les maths. On peut... prendre juste le temps de comprendre juste les concepts puis les idées générales, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Égal MC2, gars, ben là, il y a l'équation elle-même, mais on n'a pas fait plus de maths que ça, tu sais.
Exact, exactement. Mais quand même, crois-tu, Stéphanie, qu'on pourrait inventer une nouvelle formule éventuellement où tout a déjà été trouvé, puis qu'il n'y a plus rien à faire là, pour trouver ça, là?
Il n'y a rien qui est toujours tout trouvé. En ce moment, E égale MC2, on est encore en train de la tester parce que, comme tu dis, la science, c'est comme ça que ça avance. Hein? C'est notre, tu sais, mettons, c'est une, tu sais, E égale MC2, mettons, ou la relativité ou la théorie de l'évolution, c'est nos théories officielles en ce moment, jusqu'à temps qu'on en trouve une meilleure. Tu sais, la science, elle ne demande qu'à être contredite pour pouvoir avancer. Ça veut pas dire qu'on, tu sais, ça veut pas dire qu'il faut se dire, ah, ben là, vu qu'on sait jamais à 100% si c'est sûr, ben là, ah, l'évolution, on n'est pas sûr, fait que, tu sais, ça existe pas, tout ça. Tu sais, il faut pas se dire ça. Ce qu'on fait en science, c'est qu'on construit par-dessus les briques qu'on a posées. Fait qu'on s'affaire à prouver, reprouver, reprouver E égale MC2 pour être bien certain qu'il y a pas encore d'expérience qui la contredit. Puis tant qu'il y a pas d'expérience qui la contredit, ben, on l'utilise. Mais c'est ça, la science. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que des fois, je pense que, tu sais, les gens, ça les inquiète quand il y a des nouvelles informations. Tu sais, c'est comme, ça peut donner l'impression que la science, c'est pas ce qu'elle fait. Parce qu'on dit, ben voyons, ça change, les informations, ils changent, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, les informations, c'est normal qu'ils changent. Ça serait inquiétant, c'est le contraire qui serait inquiétant.
Vraiment?
Parce que ça voudrait dire que la science n'avance pas. Tu sais, pendant 2000 ans, Carl, là, on a dit que la Terre était au centre de l'univers. Ça, c'est inquiétant. Si pendant 2000 ans, il y a une idée ou un concept qui ne change pas, ça, c'est inquiétant.
Ouais.
Ça veut dire que la science, à un moment donné, est bloquée.
Exactement. Donc, ce qui est important, c'est d'évoluer, c'est d'avancer.
Exactement.
C'est de se moduler en lien avec les nouvelles découvertes, les nouvelles recherches.
Exactement.
C'est de ne pas arrêter de chercher, autrement dit. C'est pas compliqué. Puis là, tu voulais me parler de...
Ben oui, on a tout le temps. Parce que, hey, ça n'a pas rapport avec E égale MC2, parce que là, moi, là, c'est une de mes histoires préférées, parce que j'aime beaucoup l'histoire de l'espace puis de la conquête de l'espace. Puis, savais-tu, Carl, qu'il y a énormément d'animaux, pas humains, qui sont allés dans l'espace?
Ben, j'imagine. Ils ont envoyé un singe, là, dans l'affaire, là.
Hey, pas juste un. Ouais. Ils en ont envoyé comme 50 singes et primates. Tu sais, après Laika, qui est le premier être vivant, même, c'est même pas le premier animal, c'est le premier être vivant en 1957 qui est allé dans l'espace. Donc, c'était une petite chienne soviétique là, que les Soviétiques ont envoyé dans l'espace. Mais depuis, on envoie beaucoup d'animaux parce que l'affaire, c'est que l'espace, c'est pas sécuritaire. Fait qu'avant d'envoyer des humains, puis même après qu'on ait commencé à envoyer des humains, on envoyait des animaux pour voir un peu comment l'espace affectait un corps vivant. Tu sais, être en apesanteur au début, là, on savait pas si ça allait blesser les humains, on savait pas si être longtemps en apesanteur, ça allait être néfaste, qu'est-ce qui se passe aux muscles, qu'est-ce qui arrive aux muscles, qu'est-ce qui arrive au squelette, qu'est-ce qui arrive à la respiration. Fait que Même rendu aujourd'hui, on envoie des animaux, sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de réglementation éthique là, sur comment les envoyer. Mais au fil des années, on a envoyé là, Carl, des singes, des chiens, des lapins, des tortues, des araignées, des méduses, des poissons, des mouches à fruits, les petites mouches tannantes. On les a envoyées dans l'espace, des vers de terre, des guêpes, des escargots. Et on a aussi envoyé une coquerelle.
Ah oui?
En 2007, les Russes ont envoyé une coquerelle et cette coquerelle-là, c'est le premier être vivant de la Terre qui a accouché dans l'espace.
OK, on est allé jusque là. Oh, on fait des bébés.
Elle a accouché de 33 bébés coquerellos. Je ne sais pas c'est quoi le nom pour un bébé coquerelle.
Ah,
et
ouais.
C'était fait exprès. Les Russes voulaient tester si un être vivant pouvait donner naissance à des bébés dans l'espace, puis tu sais, si les bébés allaient survivre. Divulgateur, les 33 bébés ont survécu. Ils sont revenus sur Terre quelques jours après. Les scientifiques russes les ont étudiés en laboratoire. Bon, y avait-tu des problèmes de santé? C'était-tu des coquerelles différentes? Y avait-tu quatre têtes? Je sais pas. Ouais. Et ils étaient parfaitement normaux. Alors, c'était la première preuve qu'un être vivant terrestre peut accoucher dans l'espace. La coquerelle, elle s'appelait Nadejda. Là, je l'ai dit avec une voix de russe, là, ça veut dire espoir en plus.
C'est moi, assez drôle.
C'est une belle histoire.
Mais tu sais, c'est ça. Mais des fois, on ne s'arrête pas nécessairement à ça. Mais il y a tellement de tests, d'essais, de cliniques en lien avec ça. C'est comme assez
incroyable. Mais ça revient à ce que tu disais. Ça revient à ce que tu disais. Faut jamais arrêter de chercher, tu sais.
Ah oui? Non, c'est ça. Ça donne le goût. Ça donne le goût de s'intéresser à ce domaine-là,
oui.
Qui était un supplice pour combien d'étudiants? En passant, Stéphanie, Frank nous écrit, Frank est un formateur en vacances. Il dit que, bien qu'elle soit communément attribuée au chimiste français Antoine Lavoisier, qui l'a formulé dans son traité élémentaire de chimie en 1789, l'idée du principe philosophique et scientifique remonte en réalité aux philosophes grecs, notamment Anaxagone, au 5e siècle, cette phrase-là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Hey, merci, Frank. Il s'offre recherchiste pro bono.
C'est une grande famille, la gang du show du matin week-end, puis t'en fais partie, Stéphanie.
Ben merci, Carl. Je trouve ça tellement le fun de parler avec toi, puis t'es tellement comme ouvert d'esprit. Puis j'aimerais ça qu'un jour, tu me montres comment une voiture, ça fonctionne.
Ben, je te l'ai dit.
Parce que moi, quand ma voiture, elle pète, là, faut que j'ai... Elle pète pas souvent, c'est une Corolla Toyota, c'est une bonne voiture.
Ben, c'est déjà, à base, un très bon véhicule. Mais Stéphanie, là, on se doit un voyage en Normandie avec Stéphanie et Stéphanie. Puis là, ben, tu viendras faire un tour au garage, parce que Stéphanie va pouvoir t'en montrer aussi, et puis moi aussi, évidemment.
Merci, Carl et Stéphanie.
T'es super fine.
Hey, bon été!
Oui, bon été, amuse-toi, je te suis sur les réseaux, parce que tu es partout, Stéphanie Jolicoeur. Et à l'automne, on renouvelle ça, puis on va s'amuser là, comme ça dans le show du matin week-end avec ma vulgarisatrice hors pair.
Merci, Carl. Merci tout le monde. Bon été. Bye.
Salut. Bye-bye. C'est le fun, hein?
Hey, bonne.
Moi, j'aime ça, la jambe féminine.
Hey, j'aime ces petites histoires enfin, là.
Ouais.
Une petite fée cocasse.
Ouais.
On aime ça.
Coquerelle qui s'est reproduit dans l'espace, qui a été étudiée sur Terre, puis qui est revenue. Il y en a qui n'aiment pas ça, les coquerelles.
Ah non, moi, j'aime pas ça.
Tu connais la ville de Québec?
Oui.
Tu connais le lac Saint-Charles?
Oui.
Ben au retour, on parle avec une fille du lac Saint-Charles. Elle s'appelle Marie-Lise Bourque.
Les matins, mettez
le show du matin week-end
sur la table.
Radio X.